enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre des Actes. Le dimanche soir, nous sommes dans les Actes. Et on en est rendu où, là, à peu près? On est rendu au chapitre 2. On a déjà vu le chapitre 1. Et qu'avons-nous vu dans le chapitre 1? Nous avons vu que le livre des Actes est lié à l'Évangile. Et que ce qui a commencé dans l'Évangile va se poursuivre dans le livre des Actes des apôtres. Souvenez-vous, Jésus, avant de remonter au ciel, avant l'ascension, eh bien, va dire à ses disciples, « Je vous enverrai le Saint-Esprit. » Il dit, « Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut. » Et il les fait attendre à Jérusalem. Et au début des Actes des Apôtres, on reprend le récit à l'endroit où l'Évangile nous avait laissé. Et on voit donc les disciples attendre à Jérusalem et persévérer dans la prière. Ils étaient environ 120. Je sais que des fois on dit « ils étaient 120 », mais la Bible dit « ils étaient environ ». Soyons pas plus catholiques que le pape. Ils étaient environ 120 dans cette chambre haute le jour de... Enfin, et encore, la Bible dit « avant le jour de la Pentecôte ». J'espère qu'ils étaient tous là le jour de la Pentecôte aussi, du moins les environ 120. Et voilà que, alors qu'ils sont là en train de persévérer avec les femmes, avec les apôtres, avec les disciples, avec tous ceux qui ont suivi Jésus, nous avons vu dimanche passé comment Pierre va se lever au milieu de tous et va dire « Hé, on était 12 au départ, et il y en a un qui a lâché son poste, et il y en a un qui a abandonné son ministère, et il y en a un qui a laissé sa place, la place est vide ». On fait référence évidemment ici à Judas. Judas a laissé sa place. Judas avait sa place. Certains diront, oui, mais c'était écrit, il y avait une prophétie, c'est comme si tout était joué d'avance. Non, tout n'était pas joué d'avance. Dieu savait d'avance. Mais Judas avait son libre arbitre. Et c'était entre ses mains. Mais il a préféré vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. Et après, aller se suicider de remords. Et voilà que Pierre va dire, eh bien, selon les Écritures, parce que Judas, c'est trop tard pour lui maintenant et il est condamné, eh bien, selon les Écritures, qu'un autre prenne sa place. Ça vous rappelle quelque chose? Il y en a qui étaient là dimanche soir passé? Et on s'était dit ensemble, eh bien, nous aussi faisons attention à ce que personne ne prenne notre place. Comprenez que si Dieu nous envoie quelque part, un peu comme Jonas ce matin, eh bien, si on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire, ne soyons pas surpris si quelqu'un d'autre le fait à notre place. À un moment, Jésus dit, si vous ne prêchez pas, les pierres crieront. Ça vous surprendrait? Ne soyez pas surpris que Dieu puisse se servir de toutes sortes d'affaires. Si ce n'est pas vous qui parlez de l'Évangile à votre voisin, soyez pas surpris s'il y a quelqu'un d'autre qui vient frapper à sa porte et qui vient lui parler de Dieu. C'était votre place, c'était votre rôle, c'était votre mission. Et j'en ai parlé plusieurs fois, mais c'est une histoire qui m'a vraiment marqué. Alors, je la redis autant de fois que je peux, et je vais la redire ce soir encore. C'était dans une église quand j'étais jeune, à l'époque où j'étais jeune et que je n'avais pas de cheveux blancs. Eh bien, une dame est venue au Seigneur dans l'église et elle était tout feu, tout flamme et toute contente de découvrir l'Évangile et de dire « Enfin, j'ai découvert la joie, la paix, l'amour, j'ai découvert Jésus, je suis épanoui, heureux de marcher avec Jésus. Quel bonheur, Jésus m'a sauvé !» Et voilà, alors que cette femme, eh bien, découvre la foi et puis fréquente l'église depuis peu, voilà que dans l'église, elle trouve quelqu'un qu'elle connaît. C'est une collègue de travail. Et elle va dire, « Hé, quoi? Ça fait longtemps que tu viens? » « Ah, ben moi, ça fait des années. » Ça fait longtemps que tu viens dans cette église. On est collègues de travail. On se voyait tous les jours au travail. Et tu m'as jamais parlé de Dieu. J'aurais voulu savoir plus tôt. J'aurais voulu connaître plus tôt. Et il a fallu que Dieu suscite d'autres circonstances. Voilà quelqu'un qui n'était pas à sa place. Et un autre a pris sa place. Alors peut-être que certains disent, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre à ma place. Non, non, c'est pas ça le but du message. C'est de dire, hey, soyons à la place que Dieu nous a fixée. S'il nous dit, hey, ça c'est ton poste, c'est pas pour qu'on le refile à quelqu'un d'autre. On dit par chez nous, on pèle pas la neige dans la cour du voisin. Non? Pas comme ça qu'on dit? Quand le Seigneur nous confie une mission, sachons aller jusqu'au bout de cette mission. On avait insisté avec le début du livre des Actes sur le fait que Jésus revient bientôt. Et que de la même manière qu'il s'en est allé au ciel, eh bien, il nous a été fait cette annonce que Jésus reviendra. Et si on se souvient ce soir encore que Jésus revient bientôt, alors on ne peut pas rester sans rien faire. Il nous faut passer aux actes. Passons aux actes, parce que la nuit vient où ce sera trop tard et on ne pourra plus travailler. Passons aux actes avant qu'il ne soit trop tard. Passons aux actes parce que c'est à nous que Jésus a confié une mission, pas aux voisins. Et ceux qui disent, oui, mais les autres ne le font pas. Les autres, c'est leur problème. C'est leur responsabilité. Chacun rendra des comptes à Dieu pour ce qu'il aura fait ou ce qu'il n'aura pas fait. Mais qu'en ce qui nous concerne, nous puissions passer aux actes et dire, Seigneur, nous voulons être fidèles dans la mission que tu nous as confiée et nous voulons être de ceux qui accomplissent les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Alors, on est rendu au chapitre 2 du livre des Actes et on va lire donc à partir du verset 1er. Est-ce que vous avez trouvé Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1er? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, et chacun dans notre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Voilà donc que le jour de la Pentecôte. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça le jour de la Pentecôte? Certains diront, « Attendez, on est dans une église de Pentecôte, on sait ça quand même. Hein? » Si on appelle ça le jour de la Pentecôte, c'est parce que c'est le jour que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alléluia! C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit descend sur l'Église. Oui, mais attendez, c'était le jour de la Pentecôte avant même que le Saint-Esprit soit descendu. Non? Et qu'est-ce donc que ce jour de la Pentecôte? Souvenez-vous, Jésus avait dit à ses disciples, « Attendez à Jérusalem. » C'est comme s'il fallait qu'ils attendent ce moment précis du jour de la Pentecôte. Dieu aurait pu envoyer le Saint-Esprit bien avant. Mais ils ont dû attendre jusqu'au jour de la Pentecôte. Notez entre parenthèses que Jésus ne leur a pas dit « attendez jusqu'à la Pentecôte ». Il leur a dit « attendez jusqu'à ce que, quand ça viendra ». Et nous, des fois, on aimerait bien savoir quand ça arrivera. Et que le Seigneur nous dise « bon, tu vois, tu dois attendre ». Oui, mais combien de temps, Seigneur? Jusqu'à quand? Je dois attendre. Est-ce que ça arrive dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans? Ça fait un peu une différence, non? Non? Pas pour vous? Vous allez dire que ça dépend quoi? Jésus avait dit à ses disciples, « Vous recevrez le Saint-Esprit. » Mais n'avait pas précisé le temps. Il avait simplement dit, « Attendez. » Et on avait remarqué la dernière fois, on avait souligné là-dessus, qu'il persévérait. Et que donc, dans cette attente, ils se sont dit, « Qu'importe, Jésus a dit, il l'accomplira. » Jésus a fait la promesse, même, il parle de la promesse du Père. Donc Dieu a fait la promesse, le Père a fait la promesse, et Jésus a dit qu'il allait accomplir cette promesse en envoyant le Saint-Esprit promis. Et alors donc, ils attendent, ils persévèrent, ils savent que ça viendra. Pas quand, mais ils savent que ça arrivera. Et il faudra attendre jusqu'au jour de la Pentecôte. Pourquoi attendre le jour de la Pentecôte? Premièrement, parce que le jour de la Pentecôte, c'est un jour où il y a beaucoup de monde en ville. Un peu comme le folklore, la ville de Jérusalem se multiplie par 5, 6 ou 10 peut-être. Il y a beaucoup plus de monde à Jérusalem qu'habituellement dans l'année. La population va là quintupler ou même décatupler, on dit ça comme ça, se multiplier par 10, en tout cas ça fait du monde. Et d'où viennent-ils? On a lu la liste, ils viennent de partout dans le bassin méditerranéen. Il y en a même qui venaient de Rome, il y en a qui venaient d'Égypte, ils venaient de toutes sortes de régions. Mais pourquoi venaient-ils à Jérusalem? Eh bien justement, parce que c'était la Pentecôte, non? Et c'était quoi la Pentecôte? La Pentecôte, c'était une fête en l'honneur de l'Éternel. C'était une fête pieuse, une fête religieuse, une fête où on venait célébrer la moisson, la récolte, où on venait rendre grâce à Dieu pour les produits de la moisson et pour dire « Merci Seigneur pour tout ce que nous avons ». Et ils venaient de partout dans le bassin méditerranéen pour venir au temple à Jérusalem pour la moisson. Et voyez-vous, ce n'est pas un hasard. Si le Saint-Esprit descend sur l'Église le jour de la fête de la moisson, il y a un rôle, il y a une corrélation, il y a un lien entre la moisson et le Saint-Esprit. Jésus avait dit, Actes 1:8, « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. » Pourquoi témoins? Pour la moisson qui s'en vient. Vous allez travailler dans le champ, comme disait Jésus dans l'Évangile, les champs, levez les yeux, car les champs sont blancs et il y a peu d'ouvriers. Mais il dira, vous recevrez une puissance et vous allez travailler dans cette moisson et vous allez être des ouvriers dans cette moisson par la puissance du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit descend sur l'Église le jour de la moisson, pouvant la célébrer un petit peu les prémices de la moisson qui s'en vient. Et par le Saint-Esprit, nous pouvons nous attendre à une moisson. Si quelqu'un dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est la puissance du Saint-Esprit, mais pas la moisson, il y a un problème. Si quelqu'un disait ce soir, non, moi, ce qui m'intéresse, là, c'est toutes les choses bizarres qu'il y a autour du Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, c'est pas les choses bizarres. Le Saint-Esprit, c'est pas pour voler sur son petit nuage. Le Saint-Esprit, c'est pour être témoin de Jésus-Christ, pour rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance, pour passer aux actes dans sa moisson. Sinon, c'est du détournement. Sinon, on prend les choses de Dieu et comprenez les choses saintes et sacrées pour les détourner de leur fonction et de leur utilité à notre avantage. Quelqu'un qui dirait, non, mais moi ce que je veux là, vous savez, j'ai vu des évangélistes ou des pasteurs ou des prophètes, ah, ça bouge là, ça brasse, Il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui tremblent, il y a des gens qui décollent, hop, et puis je sais pas trop quoi. Il y a des plumes d'or qui descendent du ciel, il y a de l'huile qui descend. Vous avez pas entendu toutes ces choses? Il y a de la poussière d'or qui tombe dans les mains. Il y a toutes sortes d'affaires. C'est spécial. Waouh, ça c'est bon. Écoutez, s'il n'y a pas la moisson avec, ça sert à rien. Non? Mon petit-neveu est allé à la fête agricole. Il a quel âge? Il a un an? Deux ans? Quelque chose comme ça. Il a deux ans et lui, ce qu'il aime, c'est les tracteurs. Vous savez, un petit gars, il aime les tracteurs. Alors là, à la fête agricole, il a pu monter dans un gros tracteur qui était plus gros que sa maison, là. Un gros tracteur, prendre la photo avec. Il était content. Mais voyez-vous, un tracteur, c'est fait pour faire... pour travailler dans les champs, fait pour la moisson, non? Et pourtant, on peut trouver à Walmart des tracteurs pour que les petits-enfants s'amusent. Non? On peut trouver des tracteurs pour amuser les enfants. Des toutes sortes. Il y en a même qui roulent, hein? Et il y en a même qui sont avec un petit moteur où on peut... Alors, il y en a, on peut pédaler. Et il y en a d'autres qui sont même électriques, hein? Mais c'est un jouet. Et voyez-vous, la puissance du Saint-Esprit, c'est pas pour amuser les chrétiens. C'est pas pour amuser les enfants. C'est pas pour avoir notre petit plaisir ou notre petit caprice. Waouh, voilà, c'est ça que je veux, c'est ça que j'aimerais. Et après? Ah ben après, rien. Non, non. Il y a une moisson qui est attachée à la Pentecôte. Il y a une moisson qui est attachée à la puissance du Saint-Esprit. Avoir la puissance du Saint-Esprit sans moisson, c'est du détournement. Dieu nous envoie le Saint-Esprit afin que nous soyons ouvriers dans sa moisson. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et alors qu'ils sont tous ensemble dans le même lieu, il nous est dit, tout à coup, c'est venu les surprendre au moment où ils ne s'y attendaient pas. Ça me rappelle un petit peu le retour de Jésus, ça, non? Où tout à coup, au moment où on ne s'y attend pas, il y a 15 jours, on a passé une vidéo... Il y en a plusieurs qui ont été surpris. Tout à coup, soudainement, alors qu'on ne s'y attendait pas, c'est quelque part surprenant de ne pas s'y attendre alors que ça avait été annoncé. C'est un petit peu comme si quelqu'un dit « Hey, je vais venir te voir », puis quand la personne vient vous voir en disant « Hey, tu viens me voir ?» Ben, je t'avais dit que je viendrais. Et si vous êtes surpris, c'est que vous n'y croyez pas. C'est que vous n'y avez pas cru. Non ? Ou c'est que vous êtes dit, oh, maintenant, c'est un peu tard. Nous, dans la famille, on est capable de dire à quelqu'un, dans ma famille, on est capable de dire à quelqu'un, hey, on va passer le voir. Et un an plus tard, arrivé. On avait dit qu'on viendrait. Non? Sans prévenir. On sonne à la porte, hey, bonjour! On avait dit qu'on passerait. Eh oui, mais ça fait un an que tu nous as dit ça. Ben quoi? Qu'on a dit, on le fait, non? Et avec le Seigneur, vous n'allez pas dire, Seigneur, écoute, tu as dit que tu reviendrais, maintenant c'est trop tard, on ne t'attend plus. Non, le Seigneur revient, et il reviendra. Et pareil pour le Saint-Esprit. Quand Dieu a promis, il accomplit ce qu'il a promis. Et tout à coup. Et peut-être quelqu'un dira, mais pourquoi tout à coup? Ben, on l'a dit, à cause du jour de la Pentecôte. Il y avait des raisons particulières, peut-être que certains pouvaient dire la veille, alors... que ça faisait déjà 10 jours qu'ils étaient en prière, enfin, ou 9 jours la veille, qui disent, mais quand même, on attend bien beaucoup, là. Jésus avait dit qu'on allait recevoir le Saint-Esprit, il n'y a toujours rien, c'est un peu long, là. Et commencer à s'impatienter. Mais il y avait une raison, il y avait un but, il y avait un objectif. Eh bien, de la même manière dans notre vie, puissions-nous être de ceux qui ne lâchent pas, être persévérants, parce que ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Et tout d'un coup, il vint du ciel comme le bruit d'un vent impétueux, un vent fort qui est venu remplir toute la maison dans le lieu dans lequel ils étaient assis. Un vent, un souffle, un esprit. En grec, c'est le même mot. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Vent. On peut dire ça comme ça. C'est un vent, c'est un souffle, le vent, le souffle de Dieu. Et donc, il est venu le Saint-Esprit comme un Saint-Esprit impétueux, comme un vent impétueux, quelque chose de fort qui les a surpris, qui était peut-être plus fort que ce qu'ils avaient imaginé. Et ils ont vu quelque chose de, ils ont vu un signe visible, puisqu'il est dit, des langues semblables à les langues de feu leur apparurent. Donc ils l'ont vu puisque c'est apparu. Et séparés chacune les unes des autres qui se sont posées sur chacun d'eux. Et c'était comme nécessaire pour cette toute première expérience qu'ils voient ces langues de feu qui se posent sur chacun d'eux. Pourquoi? Ben, peut-être pour se rassurer l'un l'autre en disant, hey, c'est vraiment quelque chose qui vient du ciel. On n'est pas fous. Non? Vous auriez besoin de ça, vous? Il faut dire, hey, je veux être sûr là que ce qui se passe, là, qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien, ils ont vu quelque chose qui descendait du ciel. Il y a eu un vent impétueux, il y a eu des flammes, des semblables à des langues de feu qui se sont déposées sur chacun d'eux. Et ensuite, il y a eu toute une expérience, on appelle l'expérience de la Pentecôte, puisqu'il nous est dit qu'ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et parce qu'ils sont là dans ce temps de Pentecôte, et parce qu'ils ont vu ces langues de feu descendre sur chacun d'eux, ils savent que ça vient de Dieu. Et quand ils se mettent à parler dans d'autres langues, et qu'ils entendent chacun parler dans d'autres langues, et il y avait plusieurs langues différentes, eh bien voilà qu'ils savent que ça vient de Dieu. Jésus avait dit simplement, « Vous recevrez une puissance ». Mais comment cette puissance allait se manifester? C'était quoi, au juste, cette puissance? Comment ça marche, cette puissance? Ils n'en savaient rien. Jésus avait juste dit, attendez, vous allez bien voir. Vous allez bien reconnaître qu'il se passe quelque chose quand la puissance de Dieu arrivera. Jésus n'avait pas dit, voilà exactement. Quoique, notez bien que dans Marc, chapitre 16, alors que Jésus dit, voilà ce qui va se passer, il dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et quel est le premier signe de la liste? En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Jésus avait déjà annoncé ces choses. Et voilà donc qu'ils se mettent à parler en langue. Et nous croyons, en tant que pentecôtistes et dans cette église de Pentecôte, c'est là notre doctrine. Nous croyons, selon les Écritures et selon ce qui est écrit dans Actes chapitre 2, eh bien que le fait de parler dans une autre langue manifeste d'une manière visible la réception, la puissance du Saint-Esprit. Comprenons-nous bien. Je ne suis pas en train de dire que si quelqu'un ne parle pas en langue, il ne connaît pas Dieu. Je ne suis pas en train de dire que si quelqu'un ne parle pas en langue, eh bien le Saint-Esprit ne fait rien dans sa vie. Je ne dis pas ça. Je crois, et puis je vais insister dessus parce que c'est important, même si je l'ai déjà dit, mais je réinsiste là-dessus. Le Saint-Esprit est celui qui est présent dès le jour de la conversion. Il est celui qui nous conduit à la conversion. Il est celui qui nous conduit à la repentance. Il convaincra le monde. En ce qui concerne le péché, la justice, le jugement, c'est le Saint-Esprit qui amène une nouvelle naissance. Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et donc le Saint-Esprit vient amener un souffle nouveau dans notre vie qui nous fait passer de la mort à la vie. Avant, nous étions morts. Maintenant, nous sommes rendus vivants par le souffle de Dieu en nous, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rend vivants. De la même manière que l'Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts. Eh bien, l'Esprit est venu nous ressusciter d'entre les morts. Nous étions morts au péché. Nous étions coupables, condamnés à mort. Notre sort éternel, c'était la mort éternelle, c'était l'enfer. Mais le Saint-Esprit est venu mettre en nous la vie éternelle parce que Jésus avait préparé le chemin. Et Jésus dit, le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi et vous l'apportera. Jésus est celui qui a tout accompli à la croix du calvaire. Jésus est celui qui est mort pour nos offenses, mort pour nos péchés. Jésus est celui qui nous a lavés par son sang. Et le Saint-Esprit est celui qui nous donne d'entrer dans ce salut en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est donc présent en nous dès le jour de notre conversion. Et je suis convaincu qu'il ne peut pas y avoir de conversion sans l'action du Saint-Esprit. La conversion, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, ce n'est pas quelque chose de raisonné, de raisonnable. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à une conviction, qui vient nous convaincre et nous faire plier le genou devant Dieu dans un acte de repentance en disant « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et nous disons alors avec humilité « Viens dans ma vie, Seigneur Jésus ». Et Jésus dit « Le Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en lui ». Mais de quelle manière ? Par l'Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? Et c'est à ce moment précis que nous devenons le temple du Saint-Esprit. Quand nous acceptons Jésus dans notre vie, il vient en esprit dans notre vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit aux Romains, « Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. » C'est l'Esprit de Christ qui vient habiter en nous et qui vient attester à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je fais référence à toutes sortes de versets là pour vous montrer que le Saint-Esprit est là dès le départ. Et le fruit de l'Esprit, la paix, la joie, l'amour, la bonté, la bénignité, le fruit de l'Esprit de Galates 5, 22, se manifeste en nous dès la conversion. Non ? C'est le fruit de l'Esprit qui est en nous. Mais maintenant, si il y a cette expérience de la nouvelle naissance, nous croyons aussi qu'il y a comme une deuxième expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Le mot baptême veut dire immersion, d'une immersion dans le Saint-Esprit, ou encore, pour reprendre une expression du livre des Actes des Apôtres, de la plénitude du Saint-Esprit. C'est comme si nous avions reçu le salut par le Saint-Esprit qui habite en nous, mais maintenant, le Seigneur veut nous revêtir, nous remplir, nous amener dans une plénitude de puissance, de force et d'autorité par l'Esprit. Et c'est ce qui se passe le jour de la Pentecôte, et c'est ce que Dieu veut manifester dans chacune de nos vies. Et le fait de parler en langue manifeste cette plénitude du Saint-Esprit. Comme si quelqu'un qui est plein du Saint-Esprit, qui est débordant du Saint-Esprit, ça se manifeste au travers du fait de parler dans une autre langue. C'est comme le débordement, eh bien, de la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. C'est ce qui est écrit ici. C'est alors qu'ils sont là, remplis. Il est dit qu'ils sont tous remplis du Saint-Esprit, verset 4. Et parce qu'ils sont tous remplis du Saint-Esprit, il y a comme une relation de cause à effet. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Et nous croyons qu'aujourd'hui encore, ça n'a pas changé. Si nous revenons tous les dimanches soirs au livre des Actes des Apôtres, c'est parce que nous croyons qu'aujourd'hui, en 2007, c'est la même chose. Les principes du livre des Actes des Apôtres sont vrais pour nous aujourd'hui. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on se met à parler en d'autres langues. Mais je me permets de dire maintenant que le fait de parler en d'autres langues n'est pas le but en soi. Il ne faudrait surtout pas dire « moi, je veux aussi parler en d'autres langues ». Le fait de parler en d'autres langues n'est pas un but. Le but, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. L'intention de Dieu, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que nous soyons ses témoins. Le Seigneur n'attend pas de nous que nous soyons des parleurs en langue. Ça apporterait quoi de plus, si ce n'est que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, si ce n'est une bénédiction pour soi-même. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous soyons ses témoins. Et c'est exactement ce qui se passe le jour de la Pentecôte. Alors que tous se mirent à parler en langue, eh bien tous les Juifs qui étaient venus à Jérusalem pour la fête, qui étaient venus de partout, vont reconnaître les langues dans lesquelles eh bien, les disciples de Jésus sont en train de s'exprimer. Et ils vont dire, mais ceux-ci ne sont pas galiléens. Ah, peut-être que même en parlant dans une autre langue, ils avaient gardé leur accent galiléen, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils les ont repérés comme étant des gens de la Galilée. Et ils vont dire, mais comment est-ce qu'on est capable de les entendre parler en latin, en arabe, en crétois, en telle langue et telle langue? Comment se fait-il alors qu'ils sont galiléens, qui sont des gens sans culture, sans connaissance, qui n'ont jamais appris ces langues, comment parlent-ils dans nos langues maternelles? Et ces langues ont été un signe L'apôtre Paul parle aussi dans Corinthiens en disant que les langues sont un signe, une manifestation qui amène à réfléchir et à dire que se passe-t-il. Mais que disait-il donc dans ces langues? Il disait des merveilles de Dieu. Le Saint-Esprit, alors qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont été poussés, conduits à dire des merveilles de Dieu. Et ceux qui étaient là et qui les entendaient disaient, mais comment se fait-il qu'on les entende parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Voyez-vous, ce qui les a marqués, c'est pas seulement d'entendre des gens parler dans une autre langue. Ils ne se sont pas dit, mais comment se fait-il qu'on les entende parler dans une autre langue? Non, non. Ils parlaient des merveilles. Ils étaient en train de confesser et de se dire les uns aux autres, mais ce qu'ils disent, c'est merveilleux. Ce qu'ils disent, c'est formidable. Ce qu'ils disent, c'est extraordinaire. Et nous voulons, en tant que témoins, que ce que nous disions, que ce que nous proclamons, que ce que nous racontons à tous ceux qui nous entourent, puisse être aussi considéré comme des merveilles. Et que ceux qui nous entourent, lorsqu'ils nous entendent rendre témoignage, lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, ils disent « c'est merveilleux ce que tu me racontes ». Non, est-ce que ce n'est pas là le plan de Dieu? Non. Allô, il y a quelqu'un? Le plan de Dieu, c'est que nous soyons témoins et que notre message ait un impact dans la société dans laquelle nous sommes. Et il veut nous remplir du Saint-Esprit. Et le fait d'être rempli du Saint-Esprit se manifeste par le parler en langue, d'accord, mais a pour but que nous soyons témoins, remplis de la puissance de Dieu pour rentrer dans la moisson qui est celle de Dieu. La conclusion de ce passage-là a été que au verset, si on regarde au verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement et ils ne savaient que penser de ces choses. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Quand ils ont vu ce signe, quand ils ont vu ce miracle, pour eux c'est tout un miracle et c'est un miracle, que de prendre des gens qui ne savent pas parler, qui ne savent parler que... que l'araméen, l'hébreu, je ne sais pas ce qu'il parlait, l'araméen certainement ce temps-là, ou l'hébreu, eh bien voilà qu'il va dire, mais comment se fait-il qu'il parle aussi notre propre langue? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et voyez-vous, quand on est face à un miracle, quand on est face à quelque chose de surnaturel, il y a plusieurs options. Certains vont dire, que veut dire ceci? Et ils sont amenés à s'étonner. D'ailleurs, le sens du miracle, c'est ça. C'est un signe. C'est une manifestation qui est là pour amener ce qui nous entoure à s'interroger. Que veut dire ceci? Pourtant, d'autres vont se moquer en disant « ils sont pleins de vin doux ». Ce qui veut dire « ils sont complètement ivres ». Mais notez bien que ceux qui se moquent, et qui disent « ils sont pleins de vin doux », sont en train de traiter de menteurs ceux qui disent « ils parlent dans notre propre langue ». Ils sont en train de dire « non, 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 mais là, ils disent n'importe quoi ». Mais les autres étaient en train de dire « non, ils disent pas n'importe quoi ». Tu vois, lui, là, il dit pas n'importe quoi, je reconnais sa langue. C'est la langue de mon village natal, c'est la langue de mon pays. Même si c'est à des milliers de kilomètres de Jérusalem, je connais cette langue. Et il parle des merveilles de Dieu. Et quelqu'un veut dire, non, 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 il dit n'importe quoi, il est complètement saoul. Attends, je suis en train de te dire qu'il parle des merveilles de Dieu. Comprenez que là, ce jour-là, pour dire ils sont complètement saoul, qu'ils sont pleins de vin doux, il faut vraiment être rempli de mauvaise foi et d'incrédulité. Parce que plusieurs témoins qui en plus ne font pas partie des disciples, des témoins qui sont en dehors du groupe, rendent témoignage des merveilles de Dieu qui sont racontées, et pourtant on ne tient pas compte de ce témoignage, et on dit, ils sont pleins de vin doux. Et c'est triste à dire, mais c'est souvent comme ça que ça se passe dans notre monde et encore même dans notre société. Où il peut y avoir un miracle, il peut y avoir un prodige, quelque chose d'avéré, quelque chose d'attesté. Il peut y avoir un miracle, il peut y avoir une guérison, il peut y avoir toutes sortes de choses merveilleuses qui se produisent. Et même devant les faits, même devant la réalité du miracle, eh bien, on est encore capable de trouver une bonne raison pour pas croire. Non? Mais Jésus nous dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et nous voulons que cette puissance se manifeste au milieu de nous encore. Et nous voulons que le Seigneur se manifeste avec force et puissance. Et nous voulons que, alors qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu, et nous sommes réunis ensemble ce soir, et qu'on ne soit pas seulement ensemble dans un même lieu, qu'on ne soit pas seulement physiquement dans un même lieu, mais qu'on soit ensemble aussi. Pas ensemble de corps seulement, mais aussi ensemble de cœur, ensemble d'esprit, ensemble dans la même vision, dans la même mentalité, et de dire, Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons, nous aussi, soif de ton esprit. Nous avons, nous aussi, soif de ta puissance. Nous avons aussi soif de voir ta gloire se manifester au milieu de nous. Nous avons soif de te voir à l'œuvre au milieu de nous. Nous avons soif de passer aux actes. Certains diront, oui, oui, mais c'est pas aussi simple que ça. Pourquoi ce serait pas aussi simple que ça? On verra la prochaine fois comment Pierre va parler du Saint-Esprit. Mais déjà, en introduction, le Saint-Esprit, c'est une promesse de Dieu. Et il dit, c'est la promesse que je vous ai faite. Et Jésus dit, je vous l'enverrai. Et c'est pour tous. Mais une fois qu'on est rempli du Saint-Esprit, lorsque quelqu'un a été baptisé du Saint-Esprit, il ne faudrait pas que ce soit juste une expérience à un moment donné. Et de dire, je me souviens du jour où j'ai commencé à parler dans une autre langue. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? Oh, ben rien de plus. J'ai juste parlé dans une autre langue. Et à quoi ça sert? De parler juste dans une autre langue. Déjà, il y a ceux qui parlent de cette expérience au passé en disant, oui, oui, mais ça, c'était vieux, c'est il y a quelques temps, quelques années, quelques mois, mais maintenant, c'est plus pareil. Puis il y a ceux qui vont dire, ben non, non, moi, c'est toujours là, mais ça amène quoi de plus? Le Saint-Esprit est là pour que nous soyons témoins, pour que nous soyons vraiment dans une Pentecôte, une fête de la moisson, et que nous pensions à la moisson. Lorsque nous avons soif du Saint-Esprit, et lorsque nous disons, Seigneur, viens me remplir de ton Esprit Saint, ça doit être premièrement pour les autres, pas pour nous. Lorsque Salomon, même si c'est un autre contexte, lorsque Dieu demande à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Waouh! Dieu dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Ça n'a rien à voir avec le génie de la lampe d'Aladin, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont rêvé à ça quand ils étaient petits. Vous n'avez jamais vu l'histoire d'Aladin? Bon, je ne parle pas seulement de Disney, là, mais bon, de ce principe-là, de dire, tu as trois vœux. Et vous réfléchissez, ah, qu'est-ce que je demanderais si j'avais trois vœux? Non, vous n'êtes jamais posé la question quand vous étiez petit, ou peut-être même quand vous êtes grand encore. Si j'avais trois vœux, qu'est-ce que je demanderais? Eh bien, voilà que Dieu dit à Salomon, demande ce que tu veux et je te le donne. Et Salomon ne va pas dire, moi, je veux ça pour moi. Moi, je veux l'or. Moi, je veux la richesse. Moi, je veux la gloire. Moi, je veux ceci. Moi, je veux cela. Salomon va dire, accorde-moi la sagesse. Mais notez bien que si Salomon demande la sagesse, c'est pas pour avoir une réputation extraordinaire. C'est pas pour être connu sur toute la surface du globe. C'est pas pour dire, hey, je veux être le plus sage de tous les sages, et puis que tout le monde connaisse Salomon comme étant là l'ecclésiaste, celui qui connaît toutes choses et qui est capable de répondre à toutes les questions, et que même les rois et les reines viennent de très loin, quand bien même il faudrait venir eh bien, de Séba, que la reine de Séba vienne me voir et puis voit toutes les merveilles et toute ma science et ma sagesse. Non, Salomon ne demande pas la sagesse pour lui. Salomon ne demande pas la sagesse pour devenir quelqu'un. Salomon ne demande pas la sagesse pour être grand et puis être fort et puis être quelqu'un de différent des autres. Salomon demande la sagesse pour régner sur le peuple et pour être un bon roi, pour pouvoir s'occuper des autres du meilleur moyen possible, pour pouvoir dire « j'ai une responsabilité en tant que roi, Salomon c'est le fils de David », et dire « j'ai une responsabilité en tant que roi d'Israël ». Et c'est toute une grande tâche, c'est toute une grande mission. Dieu, aide-moi à accomplir cette mission. Dieu, aide-moi à prendre soin des autres. Dieu, aide-moi à bien gouverner sur Israël, à être un bon roi pour Israël. Quand Dieu dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit, donne-moi de quoi prendre soin des autres et de quoi aider les autres. Et Dieu va dire à Salomon, parce que tu as demandé la sagesse, alors que tu aurais pu demander de l'or, de la gloire, de la richesse, toutes sortes de choses, eh bien, je te donne la sagesse, mais tu auras aussi l'or, la richesse, la gloire, toutes sortes d'affaires. Ce n'est pas ce que Salomon voulait au départ. Il n'a pas dit, donne-moi la sagesse pour que j'aie aussi la fortune, pour que j'aie aussi la gloire, pour que j'aie aussi la notoriété, pour que... Non. Mais comprenez qu'il ne faudrait pas ensuite trafiquer cette histoire pour nous en disant, on va faire comme Salomon. On va dire, Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit pour que j'aie aussi la bénédiction, la faveur de Dieu dans ma vie, la puissance qui m'aide à être plus fort et à vaincre la tentation, pour que j'aie le Saint-Esprit qui me conduise, qui me dirige, qui prend soin de moi et qu'on oublie que Dieu veut nous donner le Saint-Esprit pour qu'on s'occupe des autres, pour qu'on soit des témoins de Jésus-Christ. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit témoin. Je vous donnerai le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, l'Esprit Saint, et vous serez mes témoins. Le jour de la Pentecôte souligne encore le fait que le Saint-Esprit est donné pour la moisson à laquelle Dieu nous appelle pour être ouvriers, co-ouvriers dans la moisson pour Dieu. Ne détournons pas le Saint-Esprit pour nous. Maintenant, c'est vrai que lorsque nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit, c'est pas pire. Et c'est agréable. Et ça nous bénit. Parce que Dieu nous donne rien de mauvais. Et que c'est bon. Et que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc il y a comme une édification dans le parler en langue. C'est vrai que rempli du Saint-Esprit, eh bien, il y a là plus de révélation, plus de science. Il y a là une dimension prophétique qui s'ouvre à nous, c'est vrai. Mais le but, c'est d'aider les autres. C'est d'avoir plus de compassion pour les autres. Et c'est d'avoir une puissance et une autorité pour pouvoir bénir ceux qui nous entourent. Le Saint-Esprit est survenu le jour de la Pentecôte pour parler de cette moisson. Et j'aimerais qu'en tant qu'Église de Pentecôte, on n'oublie pas ces choses. Et qu'on ne tombe pas dans un excès, comme malheureusement on peut le voir dans les temps dans lesquels nous sommes, où il y a du détournement, où certains, ce qu'ils veulent, c'est juste, moi, je veux avoir la puissance du Saint-Esprit et qu'un prophète me raconte tout ce qui se passe pour ma vie. Non? J'ai entendu dire que, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à je sais pas où, à Montréal, à Toronto, à Ottawa, ou je sais pas où, hein, à Saint-Nicéphore, j'en sais rien. J'ai entendu dire que là-bas, il y avait un prophète, il y avait un homme de Dieu qui était rempli du Saint-Esprit. Alors je cours, pourquoi? Je cours pour recevoir cet Esprit-là. Et pourquoi? Pour qu'il me parle, pour qu'il me raconte les petites affaires dont j'ai besoin, qu'il me dise que je suis quelqu'un de bien, qu'il me dise que j'ai fait de grandes choses, qu'il me dise des bonnes choses pour moi. Non, il y a un problème là. C'est pas le but du Saint-Esprit. Le but du Saint-Esprit, c'est d'amener celui qui ne croit pas à croire. Si toi, tu crois, est-ce que vous croyez ce soir? Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Fils de Dieu, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu as déjà le salut en toi. Est-ce que tu vas rechercher maintenant? Comment est-ce que je vais propager? Comment est-ce que je vais pouvoir rendre témoignage? Comment est-ce que je vais donner aux autres ce que Dieu m'a déjà donné? Si tu vas chercher quelque chose pour toi, tu es un égoïste. Alors que tu as reçu tellement, c'est un peu comme si quelqu'un était dans un pays pauvre. On a parlé d'Haïti ce matin, non? Combien on avait dit? $450 par an pour quelqu'un qui travaille. C'est son salaire. Imaginez que vous êtes dans un pays comme ça. Mais vous êtes envoyé par le Canada, vous avez un salaire un peu plus gros. Et vous entendez dire qu'il y a la Croix-Rouge qui distribue du blé. Vous dites, hey, je peux en avoir gratuitement moi aussi. Je vais aller en demander. Non? Attends, tu gagnes 10 fois plus que les autres dans le pays. Et puis, tu veux aller en plus demander? Il y a un problème là. Non? Ça ne nous viendrait pas à l'idée de dire, écoute, tu as un bon salaire, même si tu es à Drummondville. Tu as un bon salaire, tu as un bon revenu, tu dis, à la table populaire, il y a des repas pas pires, là. Je vais me faire inviter, là, comme ça, je vais économiser, je pourrais acheter mon cinéma maison. Non? Il y a un problème, là. Il y a un détournement. C'est pas fait pour ça. Et malheureusement, chez les chrétiens, ça peut ressembler à ça, des fois. Où Dieu veut appeler ceux qui n'ont rien reçu encore. Et on est dans un monde où il y a des gens autour de nous qui meurent de faim, qui meurent spirituellement. Et nous, on a déjà reçu. On a déjà été béni, on a reçu de Dieu et on dit, Seigneur, donne-moi plus encore. Nourris-moi. Les autres, c'est pas grave. Nourris-moi, Seigneur. Je veux plus de ta présence, je veux plus de toi, je veux plus. Et c'est comme si on dit, Seigneur, donne, mais moi, je donne rien aux autres. À quoi ça servirait que le Seigneur nous donne plus si on n'est pas capable de donner aux autres? Par contre, quand on donne aux autres, le Seigneur nous donne pour qu'on soit capable de donner davantage aux autres. Non? Et le Saint-Esprit, c'est ça. Si nous donnons aux autres, si nous nous donnons aux autres, si nous avons de la compassion pour ceux qui nous entourent, si nous sommes témoins de Jésus-Christ, là où il nous a placés, et que nous disons, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint, pour que je puisse donner davantage, pour que je puisse mieux parler de toi autour de moi, pour que je puisse venir avec force et puissance proclamer ton saint nom. Eh bien là, on dit, Seigneur, donne-moi pour les autres. Non pas pour moi, mais pour les autres. Maintenant, c'est vrai qu'on sera béni en passant. On dit des fois, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On le dit. C'est vrai? Est-ce que vous avez déjà connu cette joie-là des fois? Je me souviens des fois où j'ai amené des jeunes à rendre témoignage dans la rue ou dans d'autres circonstances où on est là où on... Imaginez-vous, vous êtes dans, ça vous est jamais arrivé d'être dans un temps où vous êtes peut-être fatigué, puis il y a quelqu'un qui vient chez vous, il y a une circonstance, et vous vous mettez à parler de Dieu, à rendre témoignage. Pourtant, ce soir-là, vous vouliez vous coucher tôt. Mais il y a quelqu'un qui arrive avec un besoin, puis vous commencez à parler de Dieu, à ouvrir la Bible, à prier pour cette personne. Et finalement, au bout de course, vous êtes tellement heureux de pouvoir avoir pu partager la bonne nouvelle. Non? Parce que ça met de la joie de donner aux autres. Ça met de la joie de partager ce que nous avons reçu. Pourquoi? Parce que c'est notre place. Et quand on est à notre place, quand on fait ce que Dieu veut que l'on fasse, eh bien, on peut que s'épanouir, être heureux, et puis être béni. Maintenant, si on dit, Seigneur, bénis-moi, bon, le Seigneur va vous bénir parce que il a pitié de vous, et puis parce qu'il nous aime, et parce qu'il veut prendre soin de nous. Mais si on dit, Seigneur, aide-moi à prendre les autres, on va être doublement béni. On va être béni de voir les autres être secourus, délivrés, sauvés, transformés, être là, mis en contact avec un merveilleux Sauveur. Et on va être béni de ce que le Saint-Esprit qui vit en nous, eh bien, peut se servir de nous pour faire du bien à ceux qui nous entourent. Amen. Que le baptême du Saint-Esprit que nous avons pu recevoir, ou que certains ont pu recevoir, ne reste pas là. En disant, j'ai juste reçu le baptême du Saint-Esprit, et puis rien de plus. Je me souviens d'un professeur à l'école biblique qui disait, on est dans une école biblique de Pentecôte, là, tout le monde a été baptisé dans le Saint-Esprit, oui, bon, alléluia. Bon, tout le monde prophétise, tout le monde fait des miracles, tout le monde chasse les démons, non? Ben alors, qu'est-ce que vous attendez, là? À quoi ça sert d'avoir le Saint-Esprit si c'est pour pas prophétiser, si c'est pour pas chasser les démons en son nom, si c'est pour pas manifester les miracles, la foi, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le parler en langue, mais aussi l'interprétation des langues, si c'est pour pas avoir le discernement des esprits, si c'est pour pas avoir toutes ces choses, à quoi ça sert? Ah ben je parle en langue, c'est tout. Non, le Saint-Esprit qui habite en nous doit maintenant se manifester pour bénir les autres. L'Esprit et la manifestation de l'Esprit est donnée à l'Église pour l'édification de l'Église et pour amener une édification. C'est quoi l'édification? Ben, l'apôtre Pierre dit, nous sommes des pierres vivantes. Et édifier, c'est mettre des pierres les unes sur les autres. Et comprenez qu'à l'église de Pentecôte de Drummondville, il y a encore de la place pour mettre des pierres, pour rajouter des âmes et pour construire encore l'église de Dieu. Je ne parle pas d'un bâtiment ici, je parle d'un bâtiment spirituel où la volonté de Dieu. Moi, je crois que sur les plans de Dieu, il y a un édifice spirituel qui est plus gros que ce qui doit être. Je compte pas ici simplement de notre église, je parle de toutes les églises chrétiennes de la place. Je crois que la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait plus d'étages que ce qu'il y a maintenant. Croyez pas? Il manque des âmes et c'est à nous à construire. Et le Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit est là pour l'édification du corps de Christ. Et nous voulons voir que ce corps de Christ est édifié. Conclusion, j'aimerais qu'on prenne le temps de prier en disant, Seigneur, ramène-moi à cette bonne motivation. Seigneur, pardonne-nous notre égoïsme, où trop souvent nous avons regardé nos besoins, nos affaires. Vous savez, quand on regarde un pays pauvre, on parlait d'Haïti ce matin, mais quand on est dans un pays pauvre, qu'on regarde un pays pauvre, puis qu'on dit, waouh, 400 dollars par mois, et moi je me... par année, pardon. 400 dollars par année, et moi je me plains, parce que je voulais changer la peinture de ma maison, parce que je voulais refaire ceci, puis j'ai pas l'argent, parce que je voulais faire ça, parce que ma voiture est trop vieille. Et franchement, quand on regarde ceux qui meurent de faim, qui n'ont pas de quoi à donner à leurs enfants, et puis nous, on va se plaindre, parce que telle ou telle chose, ouvrons les yeux et réalisons que le monde dans lequel on est aussi a de grands besoins spirituels. Et que ce qui fait l'objet peut-être trop souvent de nos prières, eh bien, est peut-être quelque chose d'égoïste. Et de dire, Seigneur, apprends-moi à voir les autres comme toi tu les vois. Et en voyant les autres comme toi tu les vois, apprends-moi comme Salomon à dire, Seigneur, ce que je veux. C'est pas quelque chose qui me bénisse moi, mais c'est quelque chose qui bénisse les autres. Apprends-moi, Seigneur, à être une bénédiction pour ceux qui m'entourent, que ce soit à l'école, au cégep, à l'université, que ce soit sur le lieu du travail, mais que ce soit aussi dans la famille, que ce soit dans la place où on habite, apprends-moi, Seigneur, à être une bénédiction et être rempli du Saint-Esprit pour apporter la bonne odeur de Jésus-Christ avec puissance, avec force, avec miracle. Amen. Si quelqu'un est dans ce lieu depuis pas longtemps, si quelqu'un est dans ce lieu ce soir en disant, bon, je connaissais pas trop le programme, mais moi, j'ai besoin que le Saint-Esprit travaille mon cœur aussi. J'ai besoin de cette première expérience, d'avoir la conviction que Jésus habite en moi. Seigneur est là ce soir encore. Et j'aimerais qu'on puisse, alors qu'on va rentrer dans un temps de prière, avoir simplement à cœur de dire, Seigneur, viens me remplir du Saint-Esprit, même si c'est pour la première expérience en disant, Seigneur, viens me convaincre de péché, de justice, de jugement, mais viens me dire aussi que je t'appartiens. Viens me dire, Seigneur, que tu me pardonnes. Viens me dire, Seigneur, que tu m'acceptes dans ta présence. Viens me dire, Seigneur, ce soir, eh bien, que comme le fils prodigue est revenu dans la maison, il y a une place pour moi. Nous voulons aussi prier pour ceux qui connaissent Dieu depuis longtemps, puis qui réalisent peut-être ce soir que trop souvent on a des pensées égoïstes, de dire, Seigneur, apprends-moi à voir les autres comme toi tu les vois. Remplis-moi du Saint-Esprit, non pas pour moi, Seigneur, même si je suis béni au travers de ça, mais remplis-moi du Saint-Esprit pour que je sois une bénédiction pour ceux qui m'entourent, plus de force, de puissance pour être tes témoins. Je vais inviter Eric à s'approcher alors qu'on va entrer dans un temps de chant et de dire, Seigneur, conduis-nous encore, viens souffler sur nous. Le vent de Dieu, le souffle de Dieu puisse amener quelque chose de nouveau qui change nos cœurs. Que nous repartions de ce lieu transformé, le thème de notre série, c'est « Passons aux actes ». Ce n'est pas juste d'entendre des paroles là en disant « Ah, c'est des belles paroles sur le livre des actes ». Non, non, il faut que ça produise quelque chose dans notre vie. Il faut que ça nous amène à changer, à être transformé. Et ce soir, c'est peut-être le temps, l'occasion de faire un pas en disant « Seigneur, je veux passer aux actes et je veux que ça change dans ma vie, changer ma façon de voir les choses, changer ma conception et arrêter là, de demander toutes sortes de choses pour moi. Seigneur, tu connais mes besoins. Le Seigneur connaît vos besoins. Et de dire, Seigneur, ce que je veux, et c'est ce que Jésus nous enseigne, c'est rechercher premièrement, chercher d'abord, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Est-ce que ce soir on peut dire, Seigneur, ce que je veux rechercher avant tout dans ma vie, c'est ton royaume, c'est ta justice, c'est l'avancement, c'est l'établissement du royaume de Dieu, et le reste, je le crois, Seigneur, sera donné par-dessus. On peut se lever à nos places, chanter ensemble. Alléluia.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.